Chapitre 81. Le dernier jour. Les incréés sont une déviation, une énigme qui ne mérite peut-être pas que l'on y consacre son temps. On ne peut s'empêcher de penser à eux. Ils sont fascinants. Beaucoup sont dépourvus d'esprit, comme les sprennes des émotions humaines, mais en beaucoup plus dangereux. Je crois cependant que quelques-uns sont doués de réflexion. Extrait du diagramme, livre du deuxième tiroir de bureau, paragraphe 14. Dalinar sortit de la tente sous une pluie fine, rejoint par Navani et Chalan. Le bruit de la pluie était plus doux ici qu'à l'intérieur, où les gouttes tambourinaient sur le tissu. Ils avaient progressé vers le centre pendant toute cette matinée, ce qui les avait conduits au cœur même des plateaux détruits. Ils étaient proches à présent, si proches qu'ils avaient attiré l'attention des Parchendi. C'était en train de se produire. Un serviteur offrait un parapluie à chaque personne qui sortait de la tente, mais Dalinar refusa le sien. Si ces hommes devaient se tenir sous cette pluie, il allait se joindre à eux. Il serait trempé à la fin de cette journée, de toute manière. Il traversa les rangs derrière les hommes de pont qui ouvraient la marche, vêtus de manteaux coupe-tempête et munis de lanternes à saphir. Il faisait encore jour, mais l'épaisse couche de nuages étouffait la lumière. Il utilisait une lueur bleue pour s'identifier. Royon et Aladar, voyant que Dalinar avait refusé un parapluie, sortirent sous la pluie avec lui. Sébarial, bien entendu, resta sous le sien. Ils atteignirent le bord de la masse de soldats qui s'étaient mis en position selon un grand ovale, tourné vers l'extérieur. Ils connaissaient assez bien ces hommes pour percevoir leur nervosité. Ils se tenaient avec raideur, sans remuer ni s'étirer. Ils étaient également trop silencieux et ne bavardaient pas pour se distraire, pas même pour ronchonner. Les seules voix qu'il entendait étaient des ordres occasionnels aboyés par des officiers qui réduisaient les rangs. Dalinar vit rapidement ce qui suscitait ce malaise. Des yeux rouges et brillants réunis sur le plateau voisin. Ils ne brillaient pas auparavant. Leurs yeux étaient déjà rouges alors, mais ils ne possédaient pas cette étrange lueur. Sous cette faible lumière, les corps des Parchendi n'étaient guère plus distincts que des ombres. Les yeux cramoisis flottaient comme la cicatrice de Taln, comme des sphères dans le noir, d'une couleur plus profonde que n'importe quel rubis. Les barbes des Parchendi étaient souvent tissées de fragments de gêne, obéissant à certains motifs, mais aujourd'hui, cela ne brillait pas. Trop longtemps sans tempête majeure, songea Dalinar. Même les gemmes contenues dans les sphères alétis, taillées avec des facettes et capables ainsi de contenir plus longtemps la flamme, avaient presque toutes faibli à ce stade de la saison des pleurs, bien que des gemmes plus larges puissent durer environ une semaine de plus. Ils venaient d'entrer dans la partie la plus sombre de l'année, la période où la fulgiflamme ne brillait pas. « Oh, tout-puissant !» murmura Royon en regardant ses yeux rouges. « Oh, par les noms de Dieu en personne ! À quoi nous avez-vous conduit, Dalinar ? Pouvez-vous faire quoi que ce soit pour nous aider ?» demanda tout bas Dalinar en se tournant vers Chalan, qui se tenait à côté de lui au-dessous de son parapluie, avec ses gardes juste derrière elle. Le visage blême, elle secoua la tête. « Je suis désolé. » « Les chevaliers radieux étaient des guerriers, » ajouta Dalinar à voix basse. « Si c'était le cas, j'ai un long chemin à faire. »« Partez dans ce cas, » lui dit-il. « Quand il y aura une ouverture parmi les combats, trouvez ce chemin qui mène à Ouritirou, s'il existe. Vous êtes mon seul plan de secours, Clarissime. » Elle hocha la tête. « Dalinar !» ajouta Aladar d'une voix horrifiée tout en regardant les yeux rouges formés des rangs ordonnés de l'autre côté du gouffre. « Parlez-moi franchement. Quand vous nous avez appelés à entreprendre cette marche, vous attendiez-vous à trouver ces atrocités ?»« Oui. » C'était pratiquement vrai. Il ignorait alors quelles atrocités il découvrirait, mais il savait que quelque chose approchait. « Et vous êtes venu malgré tout ?» demanda Aladar. « Vous nous avez entraînés jusqu'ici, dans ces plaines maudites. Vous nous avez laissé nous faire cerner par des monstres, nous faire massacrer et... » Dalinar saisit Aladar par l'avant de sa veste et l'entraîna vers l'avant. Le mouvement prit l'autre homme totalement par surprise et il se tut, écarquillant les yeux. « Ce sont des néantifères, là-bas, » siffla Dalinar, le visage ruisselant de pluie. « Ils sont revenus, oui, c'est vrai, et nous possédons, nous, Aladar, une chance de les arrêter. J'ignore si nous pouvons empêcher une nouvelle désolation, mais je ferai n'importe quoi, y compris me sacrifier avec cette armée tout entière, pour protéger Aletkar de ces créatures. Vous comprenez ?» Aladar hocha la tête, ouvrant de grands yeux. « J'espérais arriver ici avant que ça ne se produise, » poursuivit Dalinar. « Mais je ne l'ai pas fait. Alors maintenant, nous allons devoir nous battre. Nous allons les arrêter, en espérant que ça empêchera cette atrocité de s'étendre aux parches du monde, comme le redoutait ma nièce. Si vous survivez à cette journée, on se souviendra de vous comme l'un des plus grands hommes de notre génération. » Il relâcha Aladar et laissa le haut prince reculer en titubant. « Rejoignez vos hommes, Aladar. Allez les diriger. Soyez un champion. » Aladar regarda fixement Dalinar, bouche bée. Puis il se redressa. Il plaqua son bras contre sa poitrine dans l'un des saluts les plus impeccables que Dalinar ait jamais vu. « Ce sera fait, Clarissime, » répondit Aladar. « Ô prince de la guerre !» Aladar aboya des ordres à ses serviteurs, parmi lesquels Mintez, le clarissime à qui Aladar prêtait généralement sa cuirasse au combat, puis plaça la main sur l'épée qu'il portait au côté et s'éloigna d'un pas vif sous la pluie. « Ha !» commenta Sébarial dessous son parapluie. « Il l'a vraiment gobé. Ce crétin des foudres croit qu'il va devenir un héros. » Il sait maintenant que j'avais raison au sujet de la nécessité d'unifier Aletkar. C'est un bon soldat. La plupart des hauts princes le sont, ou l'ont été, à un moment ou à un autre. Dommage que vous vous retrouviez avec nous plutôt qu'avec eux, répliqua Sébarial en désignant Royon, qui regardait toujours fixement les yeux rouges en mouvement. Il y en avait à présent des milliers, en nombre toujours croissant à mesure que d'autres Parchendi arrivaient. Les éclaireurs rapportaient qu'ils se rassemblaient sur les trois plateaux qui bordaient le grand que les Aleti occupaient. « Je ne serai à rien au combat, » poursuivit Sébarial, « et les archers de Royon seront gaspillés sous cette pluie, sans compter que c'est un lâche. »« Royon n'est pas un lâche, » répondit Dalinar en posant la main sur le bras du haut prince qu'il dominait par la taille. « Il est simplement prudent. Ça ne lui a pas rendu service lors des chamailleries autour des cœurs de gemmes, où des hommes comme Sadeas gaspillaient des vies en échange du prestige. Mais ici, la prudence est une qualité que je préfère à la témérité. » Royon se tourna vers Dalinar, clignant des yeux pour en chasser l'eau. « Est-ce vraiment en train de se produire ?»« Oui, » répondit Dalinar. « Je veux que vous alliez rejoindre vos hommes, Royon. Il faut qu'ils vous voient. Tout ça va les terroriser, mais pas vous. Vous êtes prudent et maître de vous-même. » « Oui, » répondit Royon. « Oui, vous allez nous tirer de là, dites-moi. » « Non, je ne vais pas le faire, » répondit Dalinar. Royon fronça les sourcils. « Nous allons nous en sortir ensemble. » Royon hocha la tête sans protester. Il salua comme l'avait fait Aladar, encore que de manière un peu plus relâchée, puis se dirigea vers l'armée sur le flanc nord, appelant ses aides de camp à lui donner le nombre de ses réservistes. « Damnation !» commenta Sébarial en regardant Royon s'éloigner. « Damnation ! Et moi ? Où est mon discours passionné ?»« Vous, » répondit Dalinar, « vous allez regagner la tente de commandement pour ne pas nous gêner. » Sébarial éclata de rire. « Très bien ! Ça, je sais le faire. » Je veux que Teleb dirige votre armée, ajouta Dalinar, et j'envoie à la fois Serugiadis et Rust le rejoindre. Vos hommes se battront mieux contre ces créatures avec quelques porte-éclats à leur tête. Tous trois étaient des hommes qui avaient reçu des éclats grâce à la frénésie de duel d'Adoline. « Je vais donner l'ordre qu'on obéisse à Téleb. »« Et c'est Barial ?» demanda Dalinar. « Oui ? Si vous êtes d'humeur, brûlez quelques prières. J'ignore si quelqu'un nous écoute encore là-haut, mais ça ne peut pas faire de mal. » Dalinar se retourna vers l'océan d'yeux rouges. Pourquoi restait-il là, immobile, à les regarder ainsi ? Sébarial hésita. « Vous ne vous montrez pas aussi confiant que devant les deux autres, dites-moi. » Il sourit comme si cette idée le réconfortait, puis s'éloigna d'un pas nonchalant. « Quel homme étrange !» Dalinar adressa un signe de tête à l'un de ses aides de camp, qui alla donner les ordres aux trois porte-éclats de Colline, arrachant d'abord Serugiadis, un homme dégingandé dont Adoline avait autrefois courtisé la sœur, à son poste de commandement, le long des rangs, avant de courir chercher Téleb pour lui expliquer les ordres de Dalinar. Ce point étant réglé, Dalinar s'approcha de Navani. « J'ai besoin de vous savoir en sécurité dans la tente de commandement, autant qu'il est possible de l'être. » « Dans ce cas, répondit-elle, faites comme si j'y étais. »« Mais vous voulez que je vous aide avec les fabriaux ?» demanda Navani. « Je ne peux pas installer ces choses-là à distance, Dalinar. » Il serra les dents, mais que pouvait-il dire ? Il allait avoir besoin de tous les avantages dont il pourrait disposer. Il se tourna de nouveau vers les yeux rouges. « Les histoires qu'on raconte autour du feu sont en train de prendre vie !» déclara Rock, l'imposant homme de pont manche-corne. Dalinar ne l'avait jamais vu le protéger, ni ses fils. C'était apparemment une sorte d'intendant.
« Ces choses ne devraient pas être. Pourquoi n'ébouchent-elles pas ?»«
Je l'ignore, » répondit Dalinar. « Envoyez quelques-uns de vos hommes chercher Laïn. Je veux voir s'il peut fournir des explications. » Tandis que deux hommes de pont s'éloignaient en courant, Dalinar se tourna vers Navani. « Rassemblez vos scribes pour qu'elles inscrivent mes paroles. Je vais m'adresser aux soldats. » Quelques instants plus tard, deux scribes, qui frissonnaient sous des parapluies, crayons levés, se tenaient prêts à consigner ces mots. Ils allaient envoyer des femmes le long des rangs pour lire son message à tous les hommes. Dalinar se hissa sur la selle de Vaillant pour prendre un peu de hauteur. Il se tourna vers les rangs de soldats proches. « Oui !» cria-t-il pour couvrir le bruit de la pluie. « Ce sont des néantifères, oui !» « Nous allons les combattre. J'ignore ce dont ils sont capables. J'ignore pourquoi ils sont revenus. Mais nous sommes là pour les arrêter. Je sais que vous avez peur, mais vous avez entendu parler de mes visions lors des tempêtes majeures. Dans les camps de guerre, les Palsiris se moquaient de moi et qualifiaient ce que j'ai vu de délire. » Il tendit brusquement le bras sur le côté, désignant l'océan d'yeux rouges. « Eh bien, vous voyez là-bas la preuve que mes visions étaient réelles. Vous voyez là-bas ce dont on m'avait annoncé la venue. » Dalinar lécha ses lèvres humides. Il avait donné de nombreux discours sur les champs de bataille au cours de sa vie, mais jamais il n'en avait prononcé de semblable à celui qui lui venait en ce moment même. « J'ai été !» cria-t-il, « envoyé par le Tout-Puissant en personne, afin de sauver ce pays d'une autre désolation. J'ai vu ce dont ces créatures sont capables. J'ai vécu des vies brisées par les néantifères. J'ai vu des royaumes détruits, des peuples ruinés, des technologies oubliées. J'ai vu la civilisation elle-même conduite à la lisière tremblante de l'effondrement. Nous allons l'empêcher. « Aujourd'hui, vous ne vous battez pas pour la fortune d'un Palsiris, ni même pour l'honneur de votre roi. Aujourd'hui, vous vous battez pour le bien de tous les hommes. Vous n'allez pas vous battre seul. Fiez-vous à ce que j'ai vu, fiez-vous à mes paroles. Si ces créatures sont revenues, alors les forces qui les ont vaincues autrefois sont revenues elles aussi. Nous verrons des miracles avant que ce jour touche à son terme, soldats. » Il nous suffit d'être assez forts pour les mériter. » Il balaya du regard un océan d'yeux plein d'espoir. Nom des bourrasques. Était-ce des sprènes de gloire qu'il voyait tournoyer autour de sa tête comme des sphères dorées sous la pluie? Ses scribes terminèrent de noter ce bref discours, puis entreprirent d'en faire des copies à envoyer par le biais des messagères. Dalinar les regarda s'éloigner, espérant sur la cité sérénide qu'il ne venait pas de leur mentir à tous. Son armée semblait si petite dans cette obscurité, cernée d'ennemis. Bientôt, il entendit ses propres paroles répétées au loin, lues à ses soldats. Dalinar resta assis avec Shallan à côté de son cheval, mais Navani s'éloigna pour aller s'occuper de plusieurs de ses engins. Le plan de bataille nécessitait qu'ils attendent encore un peu, ce qui convenait très bien à Dalinar. Avec ces gouffres à traverser, mieux valait nettement être attaqué qu'attaqué. Peut-être les différentes armées en train de former des rangs encourageaient-elles les Parchendi à initier le combat en venant vers lui. Fort heureusement, la pluie empêchait l'utilisation des flèches. Les cordes des arcs ne supporteraient pas l'humidité, pas plus que la colle animale dans les arcs composites Parchendi. Les Parchendi se mirent à chanter. Le chant s'éleva soudain en une clameur qui couvrit les pluies, fit sursauter ses hommes et les poussa à reculer en formant une vague. Ce n'était aucun de ceux que Dalinar avait entendu lors d'attaques de plateau. Celui-ci était plus saccadé, plus frénétique. Il s'éleva tout autour d'eux, provenant des trois plateaux environnants, lancé comme une volée de haches vers les Aleti qui se trouvaient en leur milieu. Dalinar frissonna. Le vent soufflait contre lui, plus fort qu'il n'était coutume pendant la saison des pleurs. La rafale projeta des gouttes de pluie contre son visage. Le froid mordit sa peau. Clarissime ! Dalinar se retourna sur sa selle et vit quatre hommes de pont approcher en compagnie de Rlaïn. Il le faisait garder en permanence. Il demanda à ses gardes de s'écarter, laissant l'homme de pont Parchendi s'approcher précipitamment de son cheval. « Ce chant !» s'écria Rlaïn. « Ce chant !»« Qu'y a-t-il, soldat ?»«
C'est la mort !» chuchota Rlaïn. « Clarissime, je ne l'ai encore jamais entendu, mais son rythme est celui de la destruction, de la puissance. »
De l'autre côté du gouffre, les Parchendi se mirent à luire. De minuscules lignes rouges tremblotantes apparurent autour de leurs bras, clignotant comme des éclairs.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
demanda Shallan. Dalinar étrécit les yeux et une autre rafale souffla sur lui.
« Vous devez l'arrêter, » reprit Rlaïn. « Je vous en supplie, même si vous devez les tuer, ne les laissez pas terminer ce chant. »
C'était aujourd'hui le jour du compte à rebours qu'il avait inscrit sur les murs à son insu. Le dernier jour. Dalinar laissa son instinct lui dicter sa décision. Il demanda une messagère et l'une d'entre elles approcha. La pupille de Teshav, une jeune fille dans sa 15e année. « Diffusez mes consignes, » lui ordonna-t-il. « Transmettez-les au général Kal dans la tente de commandement, au chef de bataillon, à mon fils, à Teleb et aux autres hauts princes. Nous changeons de stratégie. »
« Clarissime, » demanda la messagère. « Quel changement ?»«
Nous attaquons. Tout de suite. »
Kaladin s'arrêta à l'entrée du terrain d'entraînement des Pâles Iris, la pluie ruisselant sur le tissu ciré de son parapluie, étonné de ce qu'il voyait. En temps ordinaire, lorsqu'il se préparait pour une tempête, les ardents balayaient et pelletaient le sable dans des tranchées couvertes sur les côtés du terrain, afin d'empêcher qu'il soit emporté. Il s'était attendu à en voir l'équivalent au cours de la saison des pleurs, au lieu de quoi ils avaient laissé le sable dehors, mais avaient ensuite placé une courte barrière en bois en travers de l'entrée. Elle bouchait l'avant du terrain d'entraînement, permettant ainsi qu'on le remplisse d'eau. Une petite cascade d'eau de pluie se déversait sur la route par-dessus le bord de la barrière. Kaladin étudia le petit lac qui remplissait à présent la cour, puis soupira, se baissa, défit ses lacets et retira ses bottes et chaussettes. Lorsqu'il entra dans l'eau froide, elle lui monta au mollet. Du sable mou émettait des bruits spongieux entre ses orteils. quel était le but de tout ça. Il traversa la cour, sa béquille sous le bras, ses bottes attachées par les lacets et jetées par-dessus son épaule. L'eau froide engourdissait son pied blessé, de manière plutôt agréable, bien que sa jambe lui fasse encore mal à chaque pas. Les 2 semaines de guérison n'avaient apparemment pas eu beaucoup d'effet sur ses plaies. Son insistance à marcher autant n'aidait sans doute pas. Il avait été gâté par ses pouvoirs. Un soldat affligé d'une plaie comme celle-là mettait normalement des mois à guérir. Sans fulgiflamme, il allait simplement devoir faire preuve de patience et se remettre comme tous les autres. Il s'était attendu à trouver le terrain d'entraînement aussi abandonné que la majeure partie du camp. Même les marchés étaient relativement vides, car les gens préféraient rester à l'intérieur pendant la saison des pleurs. Ici, il trouva cependant les Ardents en train de rire et de bavarder assis dans des fauteuils de la galerie qui cernaient l'arène. Ils cousaient des gilets d'entraînement en cuir, avec des coupes de vin Auburn sur des tables à leur côté. Cette zone était suffisamment surélevée au-dessus du sol de la cour pour rester sèche. Kaladin continua à marcher, cherchant Zaël parmi eux, en vain. Il jeta même un coup d'œil dans la chambre de ce dernier, mais la trouva vide. « Là-haut, homme de pont !» lui lança l'une des ardentes. La femme chauve désigna l'escalier au niveau du coin, où Kaladin avait souvent envoyé des gardes sécuriser le toit quand Adoline et Renarine s'entraînaient. Kaladin la remercia d'un geste, puis s'approcha de l'escalier en clopinant et gravit maladroitement les marches. Il dut fermer son parapluie pour y entrer. La pluie lui tomba sur la tête lorsqu'il la passa par l'ouverture du toit, où l'escalier prenait fin. Le toit était constitué de tuiles fixées à l'aide de crémons durcis. Et Zaël y était allongé dans un hamac tendu entre 2 piquets. Kaladin pensait qu'il s'agissait peut-être de paratonnerre, ce qui ne lui sembla pas très sûr. Une bâche accrochée au-dessus du hamac gardait Zaël pratiquement au sec. L'ardent se balançait doucement, les yeux clos, tenant une bouteille carrée de Honou, une variété d'alcool de grain de la vie corsé. Kaladin inspecta le toit, jaugeant sa capacité à traverser ses tuiles en pente sans basculer et se briser le cou. « Vous êtes déjà allé au lac limpide, homme de pont ?» demanda Zaël. « Non, » répondit Kaladin, « mais un de mes hommes en parle. »«
Qu'avez-vous entendu dire ?»«
C'est un océan si peu profond qu'on peut le traverser à gué. »«
Si peu profond que c'en est ridicule, » confirma Zaël. « Comme une baie qui s'étend à l'infini, profonde d'à peine plus d'un mètre. L'eau y est chaude, la brise y est calme. Ça me rappelle mon pays. Contrairement à cet endroit glacial, humide et paumé.
Alors pourquoi n'êtes-vous pas là-bas plutôt qu'ici ?»«
Parce que je ne supporte pas qu'on me rappelle mon pays, crétin. » »«
Ah. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on en parle ?»
Parce que vous vous demandiez pourquoi nous étions en train de créer notre petit lac limpide personnel en bas.
Ah bon?
Évidemment. Damnation, gamin, je commence à vous connaître assez pour savoir que les questions vous dérangent. Vous ne réfléchissez pas comme un lancier.
Les lanciers n'ont pas le droit d'être curieux?
Non. Dans le cas contraire, soit ils se font tuer, soit ils finissent par montrer à leurs supérieurs à quel point ils sont malins. Et alors, on les envoie là où ils sont plus utiles.
Kaladin haussa un sourcil et attendit davantage d'explications. Enfin, il soupira et demanda. Pourquoi avez-vous isolé la cour en bas?
À votre avis?
Vous êtes quelqu'un de sacrément agaçant, Zaël. Vous savez ça?
Ben oui.
Il but une gorgée de son Honou. Je suppose, reprit Kaladin, que vous avez isolé l'avant du terrain d'entraînement pour éviter que la pluie n'emporte le sable.
Excellente déduction, répondit Zaël, comme une couche fraîche de peinture bleue sur un mur.
Quoi que ça puisse bien vouloir dire. Seulement, pourquoi est-il nécessaire de maintenir le sable dans la cour? Pourquoi ne pas vous contenter de l'entreposer ailleurs, comme vous le faites pendant les tempêtes majeures?
Saviez-vous, répondit Zaël, que les pluies ne déposent pas de crémons pendant la saison des pleurs?
Le savait-il? Était-ce important? Et c'est une bonne chose, poursuivit Zaël. Faute de quoi notre camp tout entier se retrouverait bouché. Enfin bref, ce genre de pluie, c'est formidable pour se laver. Vous êtes en train de me dire que vous avez transformé le sol du terrain d'entraînement en bain ?
Ben oui.
Et vous l'utilisez vraiment ?
Ben oui.
Mais pas pour nous laver, évidemment. Pour laver quoi, alors ?
Le sable.
Kaladin fronça les sourcils, puis jeta un coup d'œil à la piscine en contrebas.
Chaque jour, reprit Zaël, nous y descendons pour le remuer. Le sable se redépose au fond et toute la saleté s'en va. La pluie l'emporte hors du camp en petits ruisseaux. Vous aviez déjà réfléchi qu'il fallait peut-être nettoyer le sable.
En fait, non.
Eh ben si. Après une année passée à se faire soulever par les pieds puants des hommes de pont et les non moins puants, mais plus raffinés, des pâles iris, après une année à voir des gens comme moi y renverser de la nourriture, ou des animaux entrer ici pour y faire leurs besoins, le sable a besoin qu'on le nettoie.
Pourquoi parlons-nous de ça ?
Parce que c'est important, répondit Zaël en buvant une gorgée, ou quelque chose comme ça. Vous êtes venu me trouver ici, gamin, en interrompant mes vacances. Par conséquent, vous devez m'écouter jacasser.
Vous êtes censé dire des choses un peu plus profondes ?
Je ne viens pas de vous dire que j'étais en vacances.
Kaladin resta debout sous la pluie. Savez-vous où se trouve le malicieux du roi ?
Ce crétin. Pas ici, heureusement.
Pourquoi ça ? Kaladin avait besoin de quelqu'un à qui parler. Et il avait passé la majeure partie de la journée à chercher Malice. Il ne l'avait pas trouvé, mais il avait cédé et acheté une chouta à un marchand ambulant solitaire. Il l'avait trouvée délicieuse, ce qui n'avait pas amélioré son humeur. Il avait donc renoncé à chercher Malice pour aller trouver Zaël à la place. Il semblait que c'était une erreur. Kaladin soupira et se remit à descendre les marches.
« Que vouliez-vous ? »
lui lança Zaël. L'homme entr'ouvrit un œil et regarda en direction de Kaladin. Avez-vous déjà eu à choisir entre deux options tout aussi déplaisantes l'une que l'autre ?
Chaque jour où je choisis de respirer.
Je crains que quelque chose d'affreux ne soit sur le point de se produire, répondit Kaladin. Je peux l'empêcher, mais cette chose affreuse, peut-être vaut-il mieux pour tout le monde qu'elle se produise bel et bien.
Ah ! Commenta Zaël.
Pas de conseil ? Demanda Kaladin.
Choisissez l'option qui vous empêchera le moins de dormir la nuit, répliqua Zaël en réarrangeant son oreiller.
Le vieil ardent ferma les yeux et se laissa aller dans son hamac.
C'est ce que je regrette de ne pas avoir fait.
Kaladin continua à descendre les marches. En bas, il ne sortit pas son parapluie. Il était déjà trempé de toute manière. Il passa plutôt en revue les supports sur le côté du terrain jusqu'à trouver une lance, une véritable, pas un modèle d'entraînement. Puis il posa sa béquille et s'avança dans l'eau en boitant. Là, il adopta une posture de lancier et ferma les yeux. La pluie tombait autour de lui. Elle crépitait dans l'eau du bassin, martelait le toit, tambourinait dans les rues au dehors. Kaladin se sentait épuisé, comme si on l'avait vidé de tout son sang. Ce temps maussade lui donnait envie de s'asseoir et de ne plus bouger. Au lieu de quoi, il se mit à danser avec la pluie. Il passa en revue les formes de combat à la lance, s'efforçant d'éviter d'appuyer son poids sur sa jambe blessée. Il pataugea dans les eaux. Il chercha paix et résolution dans ses formes confortables. Il ne trouva ni l'une ni l'autre. Son équilibre n'était pas bon, et sa jambe hurlait. La pluie ne l'accompagnait pas. Elle se contentait de l'agacer. Pire encore, le vent ne soufflait pas. L'air sentait le renfermer. Kaladin faillit trébucher. Il fit tourner la lance autour de lui, puis la laissa maladroitement tomber. Elle s'éloigna en tournoyant pour aller plonger dans le bassin. Alors qu'il la récupérait, il remarqua que les ardents l'observaient avec des expressions allant de l'hébétude à l'amusement. Il réessaya. De simples formes de combat, pas de gestes tournoyants ni de fanfaronnades. Un pas, deux pas, coup d'estoc. Le manche de la lance ne paraissait pas à sa place entre ses doigts. Il était déséquilibré. Non des bourrasques. Il était venu chercher du réconfort, au lieu de quoi sa frustration grandissait à mesure qu'il tentait de s'entraîner. Dans quelle mesure son habileté pour se battre avec la lance provenait-elle de ses pouvoirs? N'était-il donc rien sans eux? Il laissa de nouveau tomber la lance après une dernière tentative. Il tendit la main pour la prendre et découvrit un spren de pluie assis à côté d'elle, dans l'eau, qui regardait vers le haut sans ciller. Il s'empara de la lance avec un grondement, puis leva les yeux vers le ciel. « Il le mérite !» hurla-t-il au nuage. La pluie le bombarda. « Donnez-moi une raison pour laquelle il ne le mériterait pas !» hurla Kaladin, se moquant bien que les ardents l'entendent. « Ce n'est peut-être pas sa faute. Il fait peut-être des efforts, mais il échoue quand même. » Silence. « Il faut toujours retirer le membre blessé, » murmura Kaladin. « C'est ce que nous devons faire. Pour rester en vie. » D'où ces mots étaient-ils venus? « Il faut faire le nécessaire pour rester en vie, jeune homme. Transformer un handicap en avantage chaque fois que vous le pourrez. » La mort de Tien. Ce moment-là, ce moment atroce où il avait, totalement impuissant, regardé mourir son frère. Le propre chef d'escouade de Tien avait sacrifié ses éléments les moins entraînés pour gagner un bref avantage. Ce chef d'escouade avait parlé à Kaladin quand tout avait été fini. « Il faut faire le nécessaire pour rester en vie. » Il y avait là une logique tordue, une logique épouvantable. Ça n'avait pas été la faute de Tien. Il avait fait des efforts. Il avait échoué malgré tout. Alors, on l'avait tué. Kaladin tomba à genoux dans l'eau. « Tout-puissant, ô tout-puissant, le roi. » Le roi était le Tien de Dalinar. « Attaquer ?» demanda Adeline. « Vous êtes sûr que c'est ce qu'a dit mon père ?» La jeune femme qui apportait le message hocha sa tête aux cheveux luisants de pluie. Elle semblait peu à son aise dans sa robe fendue avec son écharpe de messagère à la taille.
« Vous devez arrêter ces chants si vous y parvenez, Clarissime. Votre père a indiqué que c'était important. »
Adeline étudia ses bataillons, qui détenaient le flanc sud. Juste au-delà, sur l'un des trois plateaux qui entouraient leur armée, les Parchendi entonnaient un chant affreux. Sanhardi sautilla sur place en s'ébrouant. « Je n'aime pas ça, moi non plus, » dit tout bas Adeline en lui tapotant l'encolure. Ce chant lui mettait les nerfs en pelote, et ses filaments de lumière rouge sur leurs bras, dans leurs mains. De quoi s'agissait-il ?
« Perel, » dit-il à l'un de ses commandants des opérations, « ordonnez aux hommes de se préparer au départ. Nous allons charger vers le plateau sud en empruntant ces ponts. L'infanterie lourde d'abord, les lances courtes derrière, les lances longues prêtes au combat au cas où nous serions dépassés. Je veux que les hommes se tiennent prêts à former des blocs de l'autre côté jusqu'à ce que nous soyons sûrs que les rangs Parchendi tombent. Non des bourrasques, comme je regrette de ne pas avoir d'archer. Allez-y. »
Les consignes circulèrent, et Adeline pressa Sanhardi pour qu'il se place près de l'un des ponts déjà mis en place. Ses gardes hommes de pont pour la journée suivirent, un duo nommé Scar et Drei. « Vous allez attendre la fin du combat, tous les deux ?» leur demanda Adeline en regardant droit devant lui. « Votre capitaine n'aime pas que vous alliez vous battre contre les Parchendi.
Que la damnation l'emporte avec ses consignes !» s'exclama Drei. « Nous allons nous battre, Clarissime. Ce ne sont pas des Parchendi, de toute manière. Plus maintenant. »
« Bonne réponse. Ils avanceront une fois que nous aurons initié notre attaque. Nous devons défendre la tête de pont pour le reste de notre armée. Essayez de tenir l'allure si vous y arrivez. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et attendit. Il regarda jusqu'à ce que... Une grande gemme bleue s'éleva dans les airs, brandi bien haut sur un piquet lointain près de la tente de commandement.
« Allons-y !»
D'un coup de pied, Adeline mit Sanhardi en mouvement,
traversa le pont dans un fracas de sabots et pataugea dans une flaque de l'autre côté. Les sprennes de pluie diminuèrent. Ces deux hommes de pont le suivirent en courant. Derrière eux, l'infanterie lourde, vêtue d'armures épaisses et munie de marteaux et de haches, parfaite pour fendre la carapace des Parchendi, s'élança d'une seule vague. La masse des Parchendi continuait à psalmodier. Un groupe plus petit s'en détacha, 2000 têtes environ, et se dirigea vers Adoline pour l'intercepter. Il gronda, se pencha très bas, et sa lame d'éclat apparut dans sa main. S'il... Un éclair lumineux. Le monde bascula, et Adoline se retrouva en train de déraper sur le sol, raclant les pierres avec sa cuirasse. L'armure absorba l'impact, mais ne put rien faire contre le choc qu'éprouva Adoline lui-même. Le monde se mit à tournoyer, et un jet d'eau lui aspergea le visage à travers les fentes de son casque. Lorsqu'il s'arrêta, il se hissa pour se relever. Il trébucha dans un cliquetis de métal et battit des bras au cas où des Parchendi se seraient approchés. Il cligna des yeux pour en chasser l'eau qui s'était infiltrée sous son casque, puis s'orienta vers un emplacement où le paysage se modifiait devant lui. Une tache blanche au milieu du brun et du gris. De quoi s'agissait-il ? Il parvint enfin à dégager suffisamment ses yeux pour bien y voir. Cette forme blanche était un cheval tombé à terre. Adoline laissa échapper un hurlement à vif qui résonna dans son casque. Il ignora les cris des soldats, le bruit de la pluie, la détonation soudaine et anormale qui retentit derrière lui. Il se précipita vers le corps à terre. Sang hardi. « Non, non, non !» répéta Adoline, qui tomba à genoux près du cheval. L'animal portait une étrange brûlure à la forme ramifiée qui parcourait sa robe blanche le long du flanc, large et irrégulière. Les yeux sombres de sang hardi, ouverts sur la pluie, ne clignaient pas. Adoline leva les mains, hésitant soudain à toucher l'animal. Un jeune homme sur un champ de bataille inconnu. Sang hardi ne bougeait pas. Plus nerveux ce jour-là que lors du duel où il avait remporté sa lame. Des cris, nouvelles détonations dans l'air, brutales, immédiates. Ils choisissent leur cavalier, mon fils. Nous faisons une fixation sur les éclats, mais n'importe quel homme, courageux ou lâche, peut se lier avec une lame. Seulement ce n'est pas le cas ici, sur cette terre. Ici, seuls les hommes de valeur gagnent. Bougez. Pleurez plus tard. Bougez. Avec un rugissement, Adoline se releva d'un bond et chargea pour dépasser les deux hommes de pont qui le surveillaient nerveusement, armés de lances. Il entreprit le processus d'invocation de sa lame et se précipita en direction des combats, devant lui. Il ne s'était écoulé que quelques instants, mais les rangs halétis s'effondraient déjà. Une partie de l'infanterie avançait par groupe tandis que d'autres soldats s'étaient accroupis, hébétés. Éperdu. Nouvel éclat lumineux, accompagné d'une détonation dans les airs. Un éclair. Il apparut brièvement provenant des groupes de Parchendi, puis disparut en un clin d'œil. Il laissa une image rémanente très nette, luisante, en forme de zigzag, qui aveugla brièvement Adoline. Devant lui, des hommes tombèrent, grillés vifs à l'intérieur de leur armure. Adoline cria tandis qu'ils chargeaient. Hurlant à ses hommes de tenir leur rang. De nouvelles détonations résonnèrent, mais les coups semblaient mal ciblés. Ils visaient parfois vers l'arrière ou suivaient d'étranges trajets, se dirigeant rarement droit vers les halétis. Tout en courant, il vit un duo de Parchendi tirer l'un de ses coups, mais il redescendit aussitôt vers le sol en formant un arc de cercle. Les Parchendi regardèrent fixement vers le bas, abasourdis. C'était à croire que ces éclairs fonctionnaient, eh bien, comme les éclairs jaillis du ciel, sans suivre de chemin prédéfini. « Chargez, bande de crémillons !» s'écria Adoline, courant au milieu des rangs de ses soldats. « Regagnez vos rangs! C'est exactement la même chose que d'avancer vers des archers! Gardez votre sang-froid! Resserrez les rangs! Si nous nous séparons, nous sommes morts !» Il ignorait dans quelle mesure ils entendaient ces mots. Mais le voir ainsi en train de hurler tout en percutant la ligne Parchendi produisit un effet. Des cris échappèrent aux officiers, des rangs se reformèrent. Un éclair frappa droit vers Adoline. Le bruit produit était incroyable, et cette lumière. Il resta debout sur place, aveuglé. Lorsqu'elle se dissipa, il se retrouva totalement indemne. Il baissa les yeux vers son armure, qui vibrait doucement. Un bourdonnement qui animait sa peau d'une manière étrangement réconfortante. Non loin de là, un autre éclair jaillit d'un autre groupe de Parchendi, mais sans l'aveugler. Son casque, qui était comme toujours partiellement translucide de l'intérieur, s'assombrit selon un dessin irrégulier, recouvrant parfaitement l'éclair. Adeline sourit en serrant les dents, habitée par une satisfaction féroce tandis qu'il s'enfonçait parmi les Parchendi et leur tranchait la tête d'un grand coup de lame d'éclat. D'après les récits anciens, l'arme qu'il portait avait été créée précisément pour combattre ces monstres-là. Bien que ces soldats Parchendi soient plus souples et plus féroces d'aspect que ceux qu'il avait combattus précédemment, leurs yeux brûlaient tout aussi aisément. Ensuite, ils tombaient, raides morts, et quelque chose s'échappait de leur poitrine en se tortillant. De petits sprènes rouges, pareils à de minuscules éclairs, qui filaient dans les airs puis disparaissaient.
« On peut les tuer !» hurla un des soldats non loin de là. « Ils peuvent mourir !»
D'autres reprirent ce cri et le firent circuler le long des rangs. Si évidente que paraisse cette révélation, elle redynamisa ses troupes, qui s'élancèrent en masse. « Ils peuvent mourir. »
Shallan dessinait, frénétiquement, une carte à l'encre. Chaque ligne est tracée avec une grande précision. La grande page, fabriquée sur ses ordres, recouvrait une planche immense sur le sol. C'était le dessin le plus grand qu'elle ait jamais effectué. Elle l'avait complété, une section après l'autre, pendant qu'il voyageait. Elle écoutait d'une oreille distraite les autres érudites présentes dans la tente. Elle représentait une distraction, mais une distraction importante. Une autre ligne, ondulée sur les côtés, formait un plateau étroit. C'était une copie de celle qu'elle avait dessinée à cet autre emplacement sur la carte. Les plaines étaient une forme radiale, à quatre branches reflétées le long du milieu de chaque quart de cercle, si bien que ce qu'elle dessinait dans l'un des quarts pouvait être répété dans les autres, parfaitement symétrique. D'accord, le côté est était usé, et sa carte ne serait pas précise dans cette zone. Mais pour des raisons de cohésion, elle devait terminer ces parties-là afin de pouvoir discerner le motif entier. « Éclaireuse au rapport !» annonça une messagère qui s'engouffra dans la tente en laissant entrer une rafale de vent humide. Ce vent inattendu. Il ressemblait presque à celui qui précédait les tempêtes majeures. « Quel est le rapport ?» demanda Inadara. Cette femme sévère était censée être une grande érudite. Elle rappelait à Shallan les ardents de son père. Dans le coin de la pièce, elle vit le prince Renarin vêtu de sa cuirasse d'éclat, bras croisés. Il avait ordre de les protéger tous, dans l'éventualité où les Parchendi s'efforceraient de pénétrer sur le plateau de commandement. « Le grand plateau central est exactement tel que le Parch nous l'a décrit », déclara l'éclaireuse. Lynn était une femme de carrure solide, aux longs cheveux noirs et aux yeux perçants. « Il est visiblement habité, bien qu'il ne semble y avoir personne en ce moment. » « Et les plateaux qui l'entourent ?» demanda Inadara. « Shim et Felt sont en train de les explorer, » répondit Lynn. « Felt ne devrait plus tarder à revenir. Je peux vous faire un dessin grossier de ce que j'ai vu du plateau central. » « Faites donc !» lui demanda Inadara. « Nous devons découvrir cette porte du pacte. » Shallan essuya de sa carte une goutte d'eau échappée du manteau de Lynn, puis se remit à dessiner. Le trajet de l'armée vers l'intérieur des plaines à partir des camps de guerre lui avait permis d'extrapoler et de dessiner 8 chaînes de plateaux qui en comportaient 2 chacun, parfaitement reflétés, qui partaient des 4 côtés des plaines et progressaient vers l'intérieur. Elle avait presque terminé la dernière des 8 branches tendues vers le centre. À présent qu'il se trouvait tout près, les rapports précédents des éclaireurs, ajoutés à ce que Shallan avait vu par elle-même, lui permettaient de compléter la zone qui entourait le centre. Les explications d'Erlaïn avaient été utiles. Mais il n'était pas parvenu à dessiner les plateaux centraux pour elle. Il n'avait jamais prêté attention à leur forme, et Shallan avait besoin de précision. Fort heureusement, les rapports précédents avait pratiquement suffi. Elle n'avait pas besoin de grand-chose de plus. Elle en avait presque fini. « Qu'en pensez-vous » demanda Lynn. « Montrez-le à la clarissime Shallan. » Inadara parlait d'une voix mécontente, ce qui semblait être son état naturel. Shallan lança un coup d'œil vers la carte que Lynn avait tracée à la hâte, puis hocha la tête et revint à son dessin. Mieux vaudrait qu'elle voie le plateau central par elle-même, mais le coin qu'avait dessiné cette femme lui donnait une idée. « Vous n'allez rien dire ?» demanda Inadara. « Pas encore fini, » répliqua Shallan en plongeant sa plume dans l'encre. « Le haut prince en personne nous a donné l'ordre de trouver la porte du pacte. Et je vais le faire. » Un fracas retentit à l'extérieur, comme un tonnerre lointain. Commenta Motif. « Mauvais. Très mauvais. » Inadara regarda Motif, qui formait un creux dans le sol près de Shallan. « Je n'aime pas cette créature. Les Spren ne devraient pas parler. Peut-être qu'il leur appartient, au Néantifère. »« Je ne suis pas un Spren du Néant. » répondit Motif. Clarissime Shallan, ce n'est pas un Spren du néant, déclara Shallan d'une voix absente. Nous devrions l'étudier, insista Inadara. Depuis combien de temps disiez-vous qu'il vous suit? Un bruit de pas lourds résonna sur le sol, tandis que Renarin s'avançait. Shallan aurait préféré garder secrète l'existence de Motif, mais lorsque les vents avaient commencé à forcir, il s'était mis à bourdonner bruyamment. Il n'était plus possible de l'éviter à présent qu'il avait attiré l'attention des érudits. Renarin se pencha. Il semblait fasciné par Motif. Il n'était pas le seul. « Il est probablement impliqué, » déclara Inadara. « Vous ne devriez pas rejeter si vite mes théories. Je persiste à penser qu'il peut avoir un lien avec les Néantifères. » « Ne savez-vous donc rien sur les motifs, vieille humaine ?» demanda Motif avec un soupir vexé. Quand avait-il appris à soupirer? Les Néantifères n'ont pas de motifs. Et puis j'ai lu à leur sujet dans vos légendes. Elles parlent de bras grêles comme des os et de visages hideux. Il me semble, si vous souhaitez en trouver un, que vous pourriez commencer vos recherches en regardant dans un miroir. Inadara eut un mouvement de recul. Puis elle s'éloigna d'un pas lourd pour aller bavarder avec le clarissime Belat et l'ardent Isasik au sujet de leur interprétation de la carte de Shallan. Shallan sourit tout en dessinant. « C'était très malin. »« J'essaie d'apprendre, » répliqua Motif. « Les insultes, en particulier, seront d'une grande utilité à mon peuple, car ce sont des mensonges et des vérités combinées d'une manière très intéressante. » Les crépitements résonnaient toujours à l'extérieur. « De quoi s'agit-il ? » demanda-t-elle tout bas en terminant un autre plateau. « De Spren de tempête, » répondit Motif. « Ils sont effectivement une variété de Spren du néant. C'est mauvais signe. J'ai le sentiment que quelque chose de très dangereux se trame. Dessine plus vite. »« La porte du pacte doit se trouver quelque part sur ce plateau central, » dit Inadara à son groupe d'érudits. « Nous ne pourrons jamais le fouiller entièrement à temps, » répondit l'un des ardents, qui paraissait constamment retirer ses lunettes pour les essuyer. Il les remit. « Ce plateau est de loin le plus grand que nous ayons découvert dans les plaines !» C'était effectivement un problème. Comment localiser la porte du pacte? Elle pouvait se trouver n'importe où. « Non, » se dit Shallan, dessinant un geste précis. « Les anciennes cartes le placent là où Jasnah pensait que la porte se trouvait, au sud-ouest du centre de la ville. Malheureusement, elle ne disposait toujours pas d'échelle de référence. La cité était trop ancienne, et toutes les cartes étaient des copies de copies de copies, ou des recréations d'après des descriptions. Elle était certaine, à ce stade, que Siège des Vents n'avait pas constitué l'intégralité des plaines brisées. La cité n'était pas aussi immense, loin s'en fallait. Les édifices, comme ceux qui abritaient les camps de guerre, avaient été des dépendances ou des villes satellites. Mais ce n'était que conjecture. Il lui fallait quelque chose de concret, un signe, sous quelque forme que ce soit. Les pans de la tente s'ouvrirent à nouveau. Il commençait à faire froid dehors. La pluie avait-elle redoublé d'intensité?
« Damnation !»
jura le nouvel arrivant, un homme maigre en uniforme d'éclaireur.
« Vous avez vu ce qui se passe là dehors? Pourquoi sommes-nous séparés sur différents plateaux? Le plan n'était-il pas de livrer une bataille défensive ?»«
Votre rapport ?» demanda Inadara.
« Donnez-moi une serviette et du papier !» demanda l'éclaireur. « J'ai fait le tour du côté sud du plateau central. Je vais dessiner ce que j'ai vu. » « Mais damnation! Il lance des éclairs, Clarissime! Il les lance! C'est insensé! Comment peut-on combattre des créatures pareilles ?»
Shallan termina le dernier plateau de son dessin. Elle se rassit sur ses talons et posa sa plume. Les plaines brisées dessinaient pratiquement dans leur intégralité.
Qu'était-elle donc en train de faire? Quel en était le but?
Nous allons mener une expédition sur le plateau central, déclara Inadara. Clarissime Renarin, nous aurons besoin de votre protection. Peut-être dans la cité par Shandi, trouverons-nous les personnes âgées ou les ouvriers et nous pourrons alors les protéger. Comme le Clarissime Dalinar nous en a donné la consigne. Ils connaîtront peut-être l'emplacement de la porte du pacte. Dans le cas contraire, nous pourrons commencer à nous infiltrer dans les bâtiments pour y chercher des indices.
Trop lent, songea Shallan. L'éclaireur qui venait d'arriver s'avança jusqu'à la grande carte. Il se pencha pour l'inspecter tout en se séchant à l'aide d'une serviette. Shallan lui lança un regard noir. S'il laissait tomber des gouttes d'eau sur cette carte après tout le mal qu'elle s'était donné.
« Vous vous êtes trompé !» déclara-t-il.
« Trompé ? Dans ses dessins ? Évidemment que non.
« Où ça ? »
demanda-t-elle épuisée.
« Ce plateau-là » répondit-il en le désignant.
« Il n'est pas long et effilé comme vous l'avez dessiné. C'est un cercle parfait, et il est séparé des plateaux à l'est et à l'ouest par de grandes brèches. »«
C'est peu probable, » répondit Shallan. « Si c'était le cas... » Elle cligna des yeux. « Si c'était le cas, ça ne correspondrait pas au motif. »
Eh bien, dans ce cas, trouvez une escouade de soldats pour la clarissime Shallan et faites ce qu'elle demande !» déclara Dalinar qui se retourna et leva le bras pour se protéger du vent. Renarin hocha la tête. Fort heureusement, il avait accepté d'enfiler sa cuirasse pour le combat au lieu d'accompagner le pont 4. Dalinar comprenait à peine ce garçon ces jours-ci. Bourrasque. Dalinar n'avait jamais connu d'homme capable de paraître mal à son aise dans une cuirasse d'éclat, mais son fils y parvenait. Les trombes d'eau passèrent, charriées par le vent. La lueur des lanternes bleues se reflétait sur l'armure de Renarin. « Vas-y, » lui dit Dalinar. « Protège les érudites dans leur mission. »«
Je... » répondit Renarin. « Père, je ne sais pas. »«
Ce n'était pas une requête, Renarin, » s'écria Dalinar. « Fais ce que je t'ordonne, ou donne cette foudre de cuirasse à quelqu'un qui le fera !»
Le garçon recula en titubant, puis salua avec un claquement métallique. Dalinar désigna Gaval, qui aboyait des ordres en rassemblant une escouade de soldats. Renarin suivit Gaval, et tous deux s'éloignèrent. « Père des tempêtes !» Le ciel s'assombrissait de plus en plus. Ils auraient bientôt besoin des fabriaux de Navani. Ce vent soufflait par rafales, charriant une pluie beaucoup trop forte pour la saison des pleurs.
« Nous devons interrompre ces chants !» cria Dalinar pour couvrir le bruit de la pluie tout en avançant vers le bord du plateau, rejoint par des officiers et des messagers, parmi lesquels se trouvaient Rlaïn et plusieurs membres du pont 4. « Vous, le Parche !» Cette tempête est-elle leur œuvre? Je crois que oui, clarissime Dalinar. De l'autre côté du gouffre, l'armée d'Aladar livrait une bataille désespérée contre les Parchendi. Des éclairs rouges jaillissaient par à-coups, mais, d'après les rapports du champ de bataille, les Parchendi ignoraient comment les contrôler. Ils pouvaient se révéler très dangereux pour les personnes qui se trouvaient à proximité. Mais ce n'était pas l'armée effroyable qu'ils avaient cru de prime abord. Cependant, lors d'un combat au corps à corps, ces nouveaux Parchendi étaient totalement différents. Ils rôdaient en groupe près du gouffre, où ils déchiquetaient une escouade de lanciers comme un paléchine le ferait d'un carré de fougère. Ils se battaient avec une férocité qui dépassait de loin celle dont ils témoignaient jusque-là lors des attaques de plateau, et leurs armes dégageaient des éclairs rouges lorsqu'elles touchaient leur cible. C'était douloureux à regarder. Mais la place de Dalinar n'était pas là, au cœur des combats. Pas aujourd'hui. Le flanc est d'Aladar a besoin de renforts, déclara Dalinar. De quoi disposons-nous?
De réserves d'infanterie légère, répondit le général Kal, seulement vêtu de son uniforme. Son fils portait ses éclats et se battait aux côtés de l'armée de Royon. 15e division de lanciers de l'armée de Sébarial. Mais ceux qui étaient censés soutenir le clarissime Adolin...
« Il survivra sans eux. Faites venir ces hommes et assurez-vous qu'Aladar reçoive ses renforts. Dites-lui de percer les rangs de ses Parchendi à l'arrière et d'engager à tout prix le combat avec ceux qui chantent. Quelle est la situation de Navani ?»«
Elle est prête à utiliser les appareils, clarissime, »
répondit une messagère.
Elle veut savoir par où commencer.
Par le flanc de Royon, répondit aussitôt Dalinar. Il sentait une catastrophe s'y tramer. Les beaux discours étaient une chose, mais même avec le fils de Cal qui se battait sur ce front-là, les soldats de Royon étaient les pires dont ils disposaient. Téleb les soutenait avec une partie des hommes de Sébarial, qui se révélaient étonnamment doués. Ce dernier était lui-même pratiquement inutile au combat, mais il avait le don d'engager les bonnes personnes. Son génie avait toujours résidé là. Sébarial devait supposer que Dalinar l'ignorait. Il avait conservé jusqu'à présent une grande partie des hommes de Sébarial en tant que réservistes. Maintenant qu'ils se trouvaient sur le terrain, ils avaient placé pratiquement tous les soldats dont ils disposaient. Dalinar revint vers la tente de commandement et croisa Shallan, Inadara, quelques hommes de pont et une escouade de soldats, parmi lesquels Renarin, en train de traverser le plateau au trot, en route pour leur mission. Ils allaient devoir esquiver en traversant le plateau sud, près des combats, afin d'atteindre leur destination. Puisse Kelek les garder. Dalinar lui-même avançait sous la pluie, trempé jusqu'aux os, et déchiffrait la bataille à travers ce qu'il percevait depuis les flancs. Son armée possédait l'avantage de la taille, comme prévu. Mais à présent, ces éclairs rouges, ce vent... Les Parchendi se déplaçaient avec aisance, malgré l'obscurité et les bourrasques, tandis que les humains dérapaient, plissaient les yeux et se faisaient malmener. Malgré tout, les Aleti tenaient bon. Le problème était qu'il ne s'agissait là que de la moitié des Parchendi. Si l'autre moitié attaquait, son peuple se retrouverait dans une position plus que délicate. Mais il n'attaquait pas, et considérait donc que les champs devaient être importants. Il percevait le vent qu'il créait comme plus dangereux, plus mortel pour les humains que le fait de se joindre simplement au combat. Cette idée le terrifiait. Ce qui se préparait serait pire encore.
« Je suis désolé que vous deviez mourir ainsi. »
Dalinar s'immobilisa. La pluie tombait à flots. Il se tourna vers la troupe de messagers, aides de camp, garde du corps et officier qui l'accompagnait.
Qui vient de parler ?
Ils échangèrent des regards.
Un instant. Ne reconnaissait-il pas cette voix ? Elle lui était familière. Oui, il l'avait souvent entendue. Dans ses visions, c'était celle du Tout-Puissant.